Bonjour. Le genre, ce concept controversé utilisé pour désigner les différences non biologiques entre les hommes et les femmes, différences sociales, psychologiques, mentales, économiques, voire politiques, différentes généralement construites, voire imposées socialement, différences nombreuses qui permettent à chacun d'établir et d'affiner sa perception de son identité, de dépasser les caricatures et les carcans sociaux, d'affirmer sa propre réalité, sa propre conscience de soi. On peut ainsi s'identifier comme agenré, cisgenre, de genre fluide, non-binaire, pangenre, transgenre, etc., etc. Si ce concept est bien accepté dans beaucoup de pays, il fait l'objet d'une controverse en France où l'on parle de théorie du genre pour bien faire sentir son incrédulité. Il est intéressant d'observer que ceux qui refusent le concept de genre sont souvent les mêmes qui refusent leurs droits aux homosexuels, aux transgenres et aux femmes. Cela démontre le lien évident entre ces différents combats. La lutte des femmes a aidé celle des homosexuels qui aide celle des transgenres. Cela démontre le lien qu'on ne peut que faire entre tous les combats des opprimés contre l'oppression systémique de la société. Des combats qui se fondent sur un sentiment d'invisibilité de chacune des personnes concernées, sur l'injustice qu'elles en ressentent. Prenons un exemple. Dans notre histoire occidentale, les femmes ont vécu différents moments d'invisibilité. On pourrait parler du virilisme patriarcal romain, de la prise de pouvoir des cisterciens au XIIe qui évacuent les femmes de l'Église comme de toute possibilité de pouvoir, du puritanisme qui prive les femmes de leur corps et assassine les sorcières, de Richelieu et consorts qui arrachent les femmes à leur métier en mutilant la langue, du romantisme qui relègue les femmes aux couches et à l'hystérie. On pourrait rappeler à quel point la lutte pour les droits d'une bonne moitié de la population a été longue et ardue, à quel point ce combat reste quotidien et inachevé. De tous les genres littéraires, l'imaginaire et particulièrement la science-fiction est celui par qui le genre est arrivé et questionné. Les sujets considérés comme tabous, ils sont souvent abordés de manière naturelle. On y trouve des personnages féminins forts, on y parle d'homosexualité, de changement de genre, de sexualité différente, bien avant que la société n'ait accepté de les sortir du placard. De même, c'est dans cette littérature de genre qu'on lit, qu'on montre une langue qui évolue malgré la phallocratie. La trilogie de L'Ancillaire d'Anne Leckie est l'exemple parfait. Si les personnages sont neutres dans la version originale, le traducteur Patrick Marcel a choisi de les féminiser en l'absence de neutres dans la langue française pour un effet tout aussi saisissant et vecteur de questionnement. Pour aborder ces thèmes et ces concepts, je suis accompagnée de 5 femmes, toutes autrices. Ariane Gélinas, québécoise, éditrice, autrice des Villages assoupis et des Cendres de Sedna. Anne Larue, autrice de La Vestale de Cadix, d'une histoire de l'art d'un nouveau genre, du féminisme est-il soluble dans l'eau de vaisselle et autres essais. Delia Sherman, états-unienne, anthologiste et autrice du Labyrinthe vers la liberté. Son épouse, Hélène Kushner, directrice éditoriale, autrice de Thomas Rimmer et de la série Tremontaine, spécialiste de la littérature audio, et Becky Chambers, états-unienne aussi, autrice de L'espace d'un an et de Libration. Je vais commencer par vous demander à chacune, mesdames, de nous parler de votre relation au concept de genre, de votre genre.
So I identify as a woman. I'm a cisgendered woman. And beyond that, I don't have the same struggles with gender as some people do, although I often feel like I'm being a woman wrong. So I'll get back to you in a few years, let you know if I figured it out.
La même. Yes, la même. But I also think that it's important to, this is in French, which isn't helping me any. I think that it's very important to interrogate gender and to figure out exactly what has not been said and ways in which it has not been said, and that and genre fiction gives us a wonderful opportunity to do that. I also think that it's important to give voices to people who have not been given voices before, which is not only women, but certain kinds of women, women who are not usual in any way. And so that's what I try very hard to do.
Alors, bébé que je suis, I don't care de mon genre, mais la société est là pour me rappeler constamment que j'en ai un, et pas qu'un peu. Et du coup, c'est devenu une sorte de ligne directrice, une ligne verte, hein, comme on dit à Nantes, pas rouge quand même. Et ça sert finalement à la fois pour mes romans et pour tout le reste, pour les essais. J'ai dû écrire, je sais pas, 16 ou 17 essais divers, et ils traitent tous du genre, même celui sur Delacroix. Alors, ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas de personnes assignées hommes dans le panel, comme si le genre était une question uniquement des femmes. C'est un peu ce qui s'est passé avec les sorcières, peut-on dire. Dans le livre de Federici, Silvia Federici, sur la... Alors, il ne faut pas dire génocide, Dixit, Sarah, mais il faut dire féminicide. Bon, ceci dit, quand on arrive à 8 millions de personnes, je pense qu'on peut considérer qu'on est dans le cadre d'un génocide. Hein. C'est quand même une quantité importante. Bon, dans ce livre, qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus, et ben je passe la parole à ma voisine.
Dans mon cas, alors bah, vous l'entendez à mon accent, alors je suis l'auteure québécoise de la table ronde. Et puis la façon dont le genre va s'intégrer dans mes récits est peut-être un petit peu différente, parce que les questionnements, puis on aura probablement l'occasion d'en reparler, des spécificités dans la manière dont on peut aborder tout ça, surtout d'un point de vue linguistique. Alors c'est un peu différent, peut-être un peu intégré dans mon œuvre, dans ma façon de traiter du genre. Notamment chez nous, il y a des termes qui vont de soi. On va écrire et on va publier dans nos livres auteur avec un E, professeur avec un E. Alors le fait d'évoluer dans ce contexte-là, de vivre dans la réalité québécoise, forcément, ça va teinter le rapport au genre à la fois d'un point de vue formel et structurel, forcément.
Delia, êtes-vous d'accord pour dire que la littérature de genre sert le genre? Gender in genre.
Do you agree to say that genre fiction serves gender?
I think that it can. I think that the traditional tropes of science fiction and fantasy both have been entirely the male story. The things that I read growing up, even written by women, were very much the heroic model of a very certain kind of hero who was very focused on brawn rather than brain and that sort of thing. And I was, even women were writing, even when they wrote about women, they were writing about men with breasts. And that was something that did not satisfy me. But I think that in the 60s and in the past, certainly several years in America, that there has been much more of a movement towards finding something that is a different narrative, not necessarily a traditional feminine narrative, but a narrative that is that has to do with humanity rather than what is supposed to be virile and what is supposed to be feminine.
I would actually say that the genre of science fiction and fantasy is uniquely placed, as Delia said earlier, to examine gender. And I feel that we in our generation were particularly fortunate to grow up and be reading science fiction and fantasy at precisely the moment when that was happening, when Joanna Russ, for instance, a great lesbian feminist writer, took the moment to take all the things that we all loved to read, Fritz Leiber, Fafford and the Grey Mouser, and insert a woman in, and the men who knew her and respected her began to pick up that trope as well. And I mean a heroic woman, obviously, and a cunning woman as well. And then, of course, Ursula Le Guin's The Left Hand of Darkness changed everything, and made it I would almost say de rigueur to question gender in fiction, obviously in science fiction. Obviously that didn't happen, but it opened a door for it to be, because she won all the prizes that year with The Left Hand of Darkness. It opened the door for that to be something everyone could see was one of the great possibilities of science fiction. Samuel R. Delaney, and I did not know that he was a queer man when I read him obsessively as a teen, obsessively. I didn't know I was a queer woman either at that age, but I knew that something that made a little bit of a left turn in fiction somehow appealed to me in a way I could not explain, but I am so grateful that science fiction was there for me to, like what Becky said, I knew I was a woman and I knew I was doing it wrong. So the idea that there were other ways to do it was extremely reassuring, comforting, and even empowering.
Connaissez-vous l'imaginaire, la science-fiction féministe des années 70-80, le rivage des femmes, toutes ces expériences littéraires autour d'un monde de femmes? Faudrait-il renouveler ces expériences ou en faire une nouvelle lecture?
Tu veux dire qu'il faudrait utiliser ces modèles aujourd'hui de...
Est-ce qu'il serait intéressant de renouveler ces modèles, d'en créer de nouveaux, ou de faire une nouvelle lecture de ce qui a été fait par ces femmes?
Les deux, oui. Oui, alors.
Oui, c'est vrai. Je me disais, c'est vrai que, en t'entendant parler, les trois quarts des textes de science-fiction vraiment féministes des années 70 et 80 sont des Américains, sont des textes. C'est pas français, quoi. Je voulais rappeler, enfin, je suis là, je suis même pas dans le programme parce que Sarah m'a rajouté au dernier moment en disant mince, il n'y a pas de française pour dire à quel point son pays est archaïque, à quel point le Québec nous a aidés à écrire professeur, à quel point on a été sauvagement méprisés pour ça. Je me rappelle d'un type en train de dire vous les professeurs, on était 13% dans la profession, bon Dieu, 13%, ça fait pas lourd. Et du coup, une fois de plus, je sais plus ce que je voulais dire, mais je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire, à savoir que finalement cette science-fiction, elle est essentiellement traduite pour moi, par exemple, française, toute la science-fiction dont tu parles.
La science-fiction nord-américaine, qu'elle soit
oui.
canadienne ou états-unienne, les utopies féministes qui ont pu être écrites à cette époque-là.
Oui, que ce soit des trucs d'Ursula Le Guin qui se revendiquaient pas comme tels, que ce soit Pat Cadigan,
Esther Ronchon...
Oui, il y a énormément, je sais pas encore...
Elisabeth Von Arbour...
Oui, tout. Alors, Elisabeth Von Arbour, c'est un exemple écrit en langue française, mais les trois quarts, il fallait passer par James Tripty Jr., Tipty, l'anglais, voilà. Tous ces trucs-là, et puis même, je sais là que tout n'a pas été encore disponible. Pour prendre Alice Sheldon, donc James Tipty Jr., Von Arbour a traduit un de ses romans, L'Extraordinaire par-delà les murs du monde, une pure merveille de réflexion sur le genre, entre autres, et pas seulement. Et finalement, c'est difficile d'accéder au texte, spécificité française de la difficulté d'accès à ces textes qui sont, c'est vraiment l'Amérique et la langue anglaise qui a été le moteur, je trouve, pour répondre un peu à ta question.
Oui, et puis je continuerai, je répondais aussi spontanément à les deux, et puis on a mentionné Elisabeth Von Arbour, et puis c'est tout à fait les deux dans mon cas, puisque à l'époque où le livre est paru, eh bien, j'étais pas en âge de le lire, alors j'ai pu le découvrir...
Chronique du Pays des Mers.
Et j'ai pu les découvrir par la suite et puis réfléchir sur comment il venait s'intégrer, cette lecture-là, dans mon quotidien. Et puis également penser à de quelle façon le livre a pu être perçu à l'époque. Alors faire une double lecture.
Becky Chambers, dans vos romans, vous jouez énormément avec les genres. Vous avez des personnages genrés, des personnages non-genrés, des personnages qui ont plusieurs genres selon les périodes de leur vie, etc. Vous pourriez nous parler de la création de ces genres?
So I write about aliens, first and foremost. And to me, I am a feminist, but I didn't set out to write about feminism. If I'd done that, I would have been a gender studies professor or something. I write science fiction because I love space and I love aliens, and that's my jam. So to me, if you look at the infinite diversity of life here on Earth, sex and biological sex and cultural gender are obviously two very different things, but gender is rooted in sex. And so if you look at all the other species we share the planet with, I mean, we don't even have a binary, but our concept of a binary doesn't exist elsewhere. You see so many different methods of reproducing and of biology. You see, you know, in insects, take any sort of like social hive insect, bees, ants, whatever, you have two different ways of being female. So if you take just those models that we see on Earth and then you sort of raise them up and say, okay, let's make a society that looks a little more like ants or that looks more like fish, that may change their reproductive roles through their lives. It seems sensible to me that those cultures would have vastly different ideas about gender, that it wouldn't look anything like our ideas here in the Western world. You don't even have to go far on planet Earth to find, you know, human cultures that have different ideas about gender. So I'm not interested in recreating humanity over, not even humanity, but like Western civilization over and over and over across the galaxy. It's I think not only is it dishonest, it would be really boring.
La langue française est particulièrement phallocrate. Pensez-vous qu'il est nécessaire d'inclure les genres, de visibiliser les genres dans la langue, ou au contraire d'inventer un neutre? Et là, je m'adresse particulièrement à Anne Larue et Ariane Gélinas.
Alors, j'ai essayé d'être d'une inventivité délirante à ce sujet. D'autres gens ont repris, on a commencé à inventer des mots comme « c'est-le » pour dire « celles et ceux ». On a essayé de dire « hul » avec Nicole Claude Mathieu. On a essayé de dire « ol », on a essayé de dire « yel », on a essayé de dire « yel » au pluriel. Il y en a qui ont essayé de dire « il ». Il y a Thierry Hoquet qui n'arrivait pas à dire « lua, cyborg, lea, léa ». Alors, il a dit « cyborg ». Il l'a appelé comme si c'était... il lui a donné un nom propre parce qu'il n'y arrivait pas quoi, à trouver. Donc je crois qu'on a des difficultés énormes dans la langue française. Et je pense à, je sais pas, Monique Wittig, qu'on avait tellement marre. Elle est partie aux USA et ça lui a fait des vacances. Enfin, on disait stranger, student. On ne savait pas si c'était une fille, un garçon. Elle a été débarrassée d'un carcan du genre. Alors j'ai cherché quelle langue était dégenrée. L'anglais l'est beaucoup. Il reste des bateaux, il reste des rennes. Il reste parfois des animaux qui sont genrés. Mais il n'y a pas grand-chose de genré qui reste en anglais.
Mais les bateaux sont féminins.
Oui, c'est ça.
Comme
mais
les avions.
C'est ça, il reste deux, trois trucs où se marque une espèce de féminin bizarre. Mais la langue française, je crois, est extrêmement résistante. Et bravo au Québec d'avoir été parmi les premiers points ERES mais vraiment ouvert la voie. Moi, je pense que ça a été... extrêmement important pour nous, enfin il est temps de le dire un peu, à quel point le travail qui a été fait au Québec sur l'intégration souple des éléments de langue nous ont permis de nous affirmer. Alors je ne dis pas qu'il faut forcément faire ça, ça me rappelle les débats sur Yvette Roudy en 1984, hein, ça ne nous rajeunit pas, enfin certains n'étaient pas nés, hein, bon. Mais à l'époque on se disait, est-ce qu'il faut des quotas pour les femmes scientifiques? Et la réponse qu'on a trouvée, c'est oui, il en faut, mais pas forcément pour toujours. Et les choses dans la vie peuvent être transitoires, il peut y avoir un quota, il peut y avoir une évolution, et laissons la langue aller, parce que de toute façon, elle y va, les imbéciles de patriarcalisés, de déjà morts, enfin les morts, les immortels, c'est-à-dire rien n'est plus mort qu'un immortel, somme toute. Enfin bon, non, mais tous ces braves gens, ils ne se rendent pas compte du nombre de mots qu'on a intégrés et qui ne relèvent pas de ça. Voilà, moi, là, par exemple, j'ai uploadé un truc, et puis voilà, enfin, le nombre de mots qu'on a intégrés, la langue anglaise, d'autres langues, etc. Donc là, pleurer parce que le féminin s'invite contre déjà des manipulations qui ont été faites. Rappelons-nous Erasme, le grand manipulateur de la langue. La rose que j'ai cueillie, IE, ce qui est aberrant du point de vue de la langue, c'est Erasme. Merci Erasme, amoureux du latin, qui a fichu cette fichue truc. Et toute personne normalement constituée et aimant sa langue ne comprend pas. Toute gamine ou gamin apprenant ça se dit, mais enfin, la rose que j'ai cueillie, IE, mais c'est absurde. Donc il ne faut pas oublier à quel point tous ces gens ont supprimé des choses. Là, je me réfère, disons, aux travaux d'Eliane Viennot, hein, globalement, qui montrent comment les accords au féminin ont été supprimés. Le fait de dire. Aussi, il y avait, comment dire, les parties présentes qui s'accordaient. Enfin, toutes ces choses-là ont été supprimées volontairement et par les mêmes. Hein, par les mêmes. Donc, je crois qu'il faut raser une partie du 6e arrondissement, ça aidera.
Donc, on a vraiment mutilé la langue pour en sortir le féminin.
Exactement.
Et est-ce qu'aujourd'hui, il serait plus intéressant, ou aussi intéressant, de réintégrer le féminin dans la langue, ou au contraire, de neutraliser, de rendre la langue plus neutre et moins genrée qu'elle ne l'est aujourd'hui?
Alors, il y a eu une tentative au XVIIIe siècle en Angleterre, une institutrice, ou comment elle s'appelait, vous vous rappelez, je ne me souviens plus, elle avait dit, il faut dire « his » pour tout le monde. Plus de « her », plus de machin, de trucs de féminin, « his ». Et peut-être on va arriver à ça grâce au texto, tout bêtement. Le texto, il vous met tout au masculin, donc peut-être c'est ça l'évolution de la langue. Hein. Je suis désolé, et je n'étais pas hier, ou j'ai, ça se met en « et », alors on en a marre d'écrire « et e » quand on est une fille, et finalement on laisse « je suis désolé ». Et est-ce que finalement le texto ne va pas changer la langue? C'est une hypothèse de travail. Qu'est-ce que tu en penses?
Oui, ben, cette neutralité-là, elle serait souhaitable, mais en attendant, comme le mentionnait Anne, du moins au Québec, on travaille très fort avec l'écriture inclusive. Et par exemple, on a des noms d'associations, je fais partie d'une association qui s'appelle la Société des écrivains et des écrivaines de la Mauricie, et dans les logos, ça se retrouve très, très naturellement intégré. Alors ça me semble aller un pas vers l'avant avant une neutralité qui serait souhaitable pour dans l'écriture. En attendant, la règle de proximité aussi pourrait être très, très intéressante à appliquer parce que ça donne des aberrations comme 2 millions de femmes et un maringouin sont contents. Alors ça, c'est quelque chose, alors on dit franchement...
14 filles, oui, et un chien. Oui. 14 filles et un chien, il.
Oui.
C'est aberrant.
Oui.
Débile.
Well, it's interesting that we have had the exact opposite thing happened in English, which is that there used to be actors and authoresses and aviatrixes, and now there are just, you know, actors. Everybody's an actor. Everybody is a waiter. Everybody is a flyer or a pilot. And so in order to put ourselves to make something that's more human and less gendered, what we did was we took over the masculine form, because those were the only things, I think, listening to you, those were the only things that were gendered. Everything else was completely neutral, except for, and animals were always it, unless you were talking about a mare when it was clearly a she, but a horse was always it. Then we just said, okay, now we want something that is as neutral as horse, but it's not it, so it's going to be an actor or a waiter or whatever, which is, I mean, it's the language that you're coming from as well as the language that you're aspiring to.
Yes, what you said made me ask a couple of questions of my French colleagues. First of all, why do you, and may I include you, Sarah, in this question, think that France in particular is resistant to making these linguistic changes? I know that there's the Académie, the... you know, les immortels, tout ça, mais is it also quelque chose de social? Alors, aux États-Unis, dans la langue anglaise même, tout le monde, on a bien des volontés pour faire ça. Dans la société, et maintenant, beaucoup plus sur Twitter, moi je connais tous les gens de la science-fiction, they're having a huge argument about whether we can all be them. Do you know about this? Do you know this? That everyone in their little profile on Twitter says, I am, call me them, call me he, call me she, call me they. It's something very popular in the universities, and it makes me laugh wonderfully, because, I mean, part of me thinks, like, oh, you silly children. And part of me thinks, God, I wish I'd had that. I would have had a different gender identity every year linguistically. And I don't know if I would have tortured my professors by refusing to answer if they used the wrong gender, which is something that these people do. So even in a culture where there's a binary, but people want to go beyond the binary,
the kids and very much the science fiction world or the people who read it are just grasping it with both hands. I certainly have seen in the tradition of feminism and gender that France is sort of running always a little bit behind what the M, and England as well, I would have to say. America is just a crazy place where we invent new things all the time. But the English and the French I see sort of, and Europe, kind of coming along, trying to do their best, but it is both cultural and linguistic for you, isn't it?
Il y a une énorme résistance culturelle et linguistique face au changement, face au genre. Mais une résistance où, par exemple, sur les réseaux sociaux, quand on présente des situations genrées, des situations sexistes, des situations de langue, des changements linguistiques, on se prend des volets de bois vert, on se fait insulter, on se fait m'expliquer, on se fait systématiquement, on nous remet en question. On met en question notre compétence à décider pour nous, à témoigner de ce que nous sommes.
Oui, en France, par exemple, on a élaboré quand même un certain nombre d'outils féministes pratiques, parmi lesquels, dans une assemblée composée d'hommes et de femmes, on baisse sa voix d'un ton, on parle comme ça quand même, voilà, pour avoir l'air un peu plus masculin et qu'on nous écoute, bon Dieu de diable. On commence à parler un peu plus vulgairement, on se tient un peu plus vulgairement et on passe la parole aux autres. C'est-à-dire, on dit, oui, ben là, tiens, si tu disais ton avis sur la question, et si par exemple, elle, c'est pas le cas, elle est empowerée, mais quelqu'un qui le serait pas, à ce moment-là, porté par le groupe, peut parler. Donc c'est que des trucs comme ça, et beaucoup de gens sont maintenant au courant. Ça se répand de plus en plus. Il y a une véritable force qui se joue dans les mots, même si c'est pas forcément...
Voilà, mais la résistance oui. est forte et violente.
C'est vrai.
En face.
Oui, oui, c'est vrai.
Et aussi, quelque chose que je plains aux États-Unis, c'est que l'éducation, ça ne vaut presque rien. Et même en France, c'est l'opposé, et c'est un peu peut-être snob, vraiment, car si vous voulez être vu comme sérieux, il faut être un peu masculin, comme vous dites, mais aussi que pour être bien élevé et éduqué, il faut parler correctement, n'est-ce pas?
Oui, mais justement, en jouant sur ces codes-là au quotidien, brusquement, en prenant une pause un peu avachie, en disant « Ouais, alors là, ben ouais, moi, le genre, vous comprenez ?» Enfin, c'est-à-dire, en prenant une espèce de pause quasi théâtrale, les gens arrivent finalement à casser un peu ces codes, à surprendre, et puis on ne peut pas les coincer, parce que, bon, on ne va pas leur dire « Serre tes jambes, tiens-toi à droite », personne ne peut dire ça en pleine réunion, par exemple. Donc, il y a une espèce de posture, un travail, il faudrait presque un travail théâtral, quoi. Mais en arriver là, c'est quand même minable, hein, quand on y pense, hein, c'est un peu tristoun. Et c'est vrai que ça va de pair, comme disait Sarah, avec une certaine, je dirais, sumérisation de la France. Je veux dire par là que tout le monde est obsédé par les règlements, le machin, votre chien, vous le mettez dans le sac, le ticket, le machin. Et peut-être ça va de pair avec ça. C'est-à-dire les gens, c'est pas cool, ça rigole pas. Plus personne ne rit dans ce pays. C'est... Enfin, si, manifestement, il y en a qui rient. Alors on essaie de faire rire, on écrit de la SF, ironico, machin, bon, pour essayer de se détendre et d'étendre les autres, et puis pas de toujours prendre la mouche au moindre truc, enfin pas être trop raide, mais malgré tout, les choses, effectivement, c'est très très dur de se prendre des volets, notamment le mouvement MeToo, là, avec la mésexplication, donc la mésexplication, pour ceux qui ne savent pas, mais je pense que tout le monde sait, c'est quand vous êtes physicienne atomiste et qu'un bonhomme vous dit, tu sais ce que c'est que l'atome, poupée, ben, je vais t'expliquer. Donc ça, c'est la mésexplication, c'est tout le temps, partout. Donc maintenant, les femmes le notent et disent, et même les hommes, hein, pas que les femmes, les hommes féministes disent, tiens, mes explications là. Donc il y a tout un travail à faire, et extrêmement inclusif, hein, dire c'est que les femmes, c'est conneries. Les hommes, ils sont assignés à un genre aussi bien. Hein. C'est le patriarcat comme système global, aidé par cette espèce de pointillisme.
Ils en souffrent autant que nous, de toute façon.
Peut-être pas autant, enfin,
pas
ça
autant,
dépend lesquels.
Hein. D'une, oui. d'une certaine.
Je crois que Macron ne souffre pas trop.
Non, mais en même dans leur construction.
Oui, mais ils sont
dans leur construction à partir de l'enfance, ils sont des victimes du patriarcat.
Tout le monde est victime du patriarcat. Voilà, c'est ça le truc en fait. C'est une méga civilisation calamiteuse qu'il est temps de donner un grand coup de pied dans un fourmilière. Bon, je cause, c'est tout ce que je sais faire. Et du coup, j'accuse la.
Voilà.
Je fais une chose horriblement masculine, j'envahis la parole. Je me tais.
Alors, j'ai posé la question qui fâche, celle qui revient systématiquement dans les métiers littéraires, surtout en France. L'écriture a-t-elle un genre ? Y a-t-il, considérez-vous que votre écriture est particulièrement liée à votre genre ou pas ? C'est une question stupide, c'est une question qui revient systématiquement, mais qu'il est toujours intéressant de démonter.
So it's a difficult question, and I have a difficult answer as well, because my knee-jerk reaction is no, of course not. Like, I don't, when I look at my work, I don't see it as like women's science fiction. I really recoil from that idea of being placed on a different shelf or on a different list, you know, like I write science fiction, that is what I do. And yet, I am a woman, and I can't help but write from a woman's experience. I don't know anything different. So in that I say, well, yes, it is women's science fiction because, you know, that's the experience I'm coming from, whether it be, you know, as a woman, as a gay woman, as an American, as, I don't know, anything else that I play video games, I like bugs, I don't know, you know, whatever it is, they all inform my writing. So yes and no is the answer. I mean, I think all literature is the product of the identities of whoever wrote it. And yet at the same time, it's like you were saying about, you know, actor and actress. I don't want to be the subcategory. I'm the category.
Je dirais, ouais, que non, justement, l'écriture, elle n'a pas un genre. Et une des preuves assez éloquentes de ça, ce sont, par exemple, les auteurs féminines qui ont écrit sous des pseudonymes masculins. Et ça l'a mis souvent, parfois, on ne le sait même pas. Et ça prend des années plus tard. Et puis, ah, bon sang, je ne l'aurais jamais deviné.
Il y a la fameuse histoire de James Tiptree Jr. Je ne sais plus quel auteur.
Silverberg.
Robert Silverberg, oui. A déclaré à un moment donné à quel point cette écriture était virile, était masculine. Avant de découvrir que James Tiptree Jr. était en fait Alice Sheldon. Mm-hmm.
Oui, on a eu la même situation récemment au Québec avec la série Amblistone. Et puis, l'identité de l'auteur, qui est une femme, a été révélée seulement au quatrième tome, 4 de 4. Et pendant les trois premiers, les journalistes disaient « Ah, c'est forcément un homme avec toute cette violence. » Alors, ils nous sortaient ça. Et alors, ce qui était un gros préjugé et qui n'avait pas lieu d'être. Alors ça, c'est un élément qui peut dire « ben non, alors ça n'a pas de genre ». J'ajouterais également, que je pense que c'est probablement votre cas aussi, qu'on travaille avec des narrateurs qui sont tant masculins que féminins, et puis c'est la manière dont on va les traiter ne sera pas genrée, ne sera pas déterminée par notre genre féminin.
Well, since I write fantasy, which is supposed to be a girl genre, if it doesn't have barbarians in it.
Except that all the bestsellers are men.
That too. I also I'm a child of the 60s, and I grew up as, you know, a feminist waving my feminist flag high, and I can't get away from that. So of course I think of writing as a woman, and I write mostly women's stories, and I put them in places that women do not usually find themselves. I put them in places that women do find themselves and have difficulty. Mostly what I write is historical fantasy. So I'm dealing with our world, frequently with the magic that the people of the culture that I'm writing about already believed in, but I make it real so that it works every time. And so that allows me certain ways in which I can deal with genre and gender, and because it's genre in French, and it's an endless game for me to figure out how to make women human and make men human too, to feminize men, to masculinize women in certain ways, and yet try to keep them not an idea but a real person, which of course we all are.
J'ai une petite histoire à vous raconter. Mon premier roman, c'était heureusement traduit en français, c'est À la pointe de l'épée, et ça s'agissait seulement des hommes. Homosexuels et bisexuels et tout ça, mais l'histoire c'était surtout des hommes. Et
Je crois que c'est peut-être que pour ça, c'était très bien reçu. Et j'avais beaucoup de respect, dignity. It was considered a serious book, even though it was written by a woman. And I say sometimes there's a cadre of women writers in my generation who were honorary men because they didn't do girly stuff. Nancy Kress is another. I do not know why this is, but I think in some ways it made me an honorary man as a writer within the field. I got respect even though I was writing fantasy that not all women who write superb fantasy get. Okay. So, après ça, j'ai écrit Thomas Larry Meur, c'était tout à fait différent, mais en même temps, c'était l'histoire d'un homme, tandis que j'avais des femmes importantes, très importantes. Et après ça, j'ai pensé d'écrire une sequel, une suite à la pointe de l'épée, mais ça, pardon, je vais parler en anglais, from the viewpoint of a young girl looking at the characters in Swords Point, in A la Pointe de l'Épée. And it was a very queer, on comprend queer ici? Okay, it was a very queer novel. It very much interrogated gender. It showed a girl in a traditional, almost Jane Austen situation, turning into a girl with power against her will, learning to use the sword, learning not to behave as a traditional girl. And I think it was, in many ways, a more complicated and better book than Swords Point. And it was pretty well liked, but there was one very interesting review that said, this is basically chick lit. Vous comprenez chick lit? Ouais? Non? Okay. Ça s'agit seulement des femmes. And at first I thought, oh, you're an idiot. T'es idiote, bon, c'est pas ça du tout. Mais je pensais, c'était seulement que ça, je sais, que ça s'agissait to the fate and the situation of women. That suddenly, if it was about a woman, even though there were lots of men in the story, suddenly it was not a book for men. Voyons.
J'ai observé le même genre de réaction, excusez-moi, par rapport au roman de Becky Chambers. Dans mon entourage, la majorité des femmes ayant lu le bouquin, les deux bouquins, les ont vraiment adorés. Toujours dans mon entourage, la majorité des hommes lecteurs de science-fiction, surtout de science-fiction, qui ont lu ce livre, ne l'ont pas aimé. Et ont trouvé des défauts, ont absolument voulu y trouver des défauts que nous, les femmes, n'avions pas du tout perçus de cette manière-là. Et même quand j'ai pu faire des comparaisons avec des auteurs hommes ayant écrit des histoires dans le même genre, ils ont refusé la comparaison. Et à nouveau, c'est une femme qui écrit des histoires avec des personnages féminins. Parce que dans l'espace d'un an, le personnage principal, d'une certaine manière, qui arrive, est une femme. Parce que dans Libération, les deux personnages sont féminins. Et il y a quelque chose qui bloque.
We spoke a little bit about this yesterday, and it's funny to me because that's not something I've encountered back home, at least to my knowledge. Maybe they're talking about it behind my back, I don't know. But my experience, both stateside and in the UK, is that it has been, I hear positively from readers of all ages and genders. So this was news to me, and I mean, I've been in France for 48 hours, so I can't really comment I can't dig into what that cultural difference is, but I do find it interesting. My own experience back home, it doesn't match what you're discussing, but the thing I have encountered often, not often, but more than once, which makes it statistically significant, is that when I tell people I write science fiction, I've sometimes gotten the immediate assumption that I write for kids. which is this whole complicated thing to unpack, because first you have sort of the devaluing of children's fiction, saying that children's fiction isn't as important, it's not real, which is ridiculous because like the most important things we read are the things we read as children. But also just the assumption that I shouldn't be writing for an adult because I'm, you know, because I'm a woman. And I have no conclusion there. I just, it's interesting, and it's something that my male peers haven't experienced.
J'ai eu la même réaction de certaines personnes à la sortie de mon premier livre, qui est « Ah, mais c'est de la science-fiction. Tu écris pour les enfants. Tu écris pour la jeunesse. » Première réaction. Maintenant, il reste un quart d'heure. Et je voudrais me tourner vers le public et voir si vous avez des réactions ou des questions à poser à nos belles autrices.
On trouve tout à fait normal que les filles aiment et suivent des personnages masculins. On est parfaitement en empathie avec eux. Par contre, bizarrement, quand il s'agit de faire l'inverse, c'est-à-dire quand demander à des garçons d'être en empathie avec des personnages masculins, bah, bizarrement, ça passe moins bien. Apparemment, ça
va être en empathie avec des personnages féminins ou masculins ?
Que les garçons soient en empathie avec des personnages féminins. Apparemment, ça va bien moins se vendre. Et puis, non, les garçons, ils n'arrivent pas à suivre ces histoires-là. Donc, ils n'arrivent pas à suivre parce qu'on ne leur a jamais proposé de le faire, ou bien parce qu'ils sont intrinsèquement capables de le faire.
That's taught. That's absolutely taught behavior. I think it has so much to do with how the child is brought up, not just by their parents, but also by their teachers and in culture and everything. There is this idea that male characters, you know, like a young boy hero is for all kids, but if it's a princess or if it's a girl, that's only for girls, and that's not something that's inherent in us. That is something we teach our kids. That's something we teach our kids the minute we say to a boy, you can't wear a dress. Oh no, you can't have that pink thing. That's for girls. They learn that very, very quickly. And I think that's just a matter of us as adults being conscious that goes on, and being very mindful of that with our own kids, and doing our best to uproot it. It's hard because it's deeply baked into our society, but we can definitely chip away at it.
C'est en ça que nous disions tout à l'heure que nous sommes tous victimes du patriarcat. Et le fait de refuser aux garçons un certain nombre de choses, comme des robes, des couleurs, des jeux, des métiers, en font des victimes quand ils sont enfants de cette société phallocrate.
Oui, je voulais dire à propos de la question, j'ai joué de ça, enfin c'est assez marrant, dans mon bouquin là, qui s'appelle La fille geek, ça commence comme ça. Est-ce que ça va être l'histoire d'une fille ? C'est l'histoire d'une fille, avec une typo atroce du genre « Ah, horreur, les vampires arrivent !» Et immédiatement, on va rassurer le lecteur. Non, on vous fait peur dans la grande tradition du thriller fantastique. Vous pensez bien que c'est pas l'histoire d'une fille, c'est l'histoire d'un cheval, c'est l'histoire de la géolocalisation, c'est l'histoire des voyages dans les îles du Pacifique, c'est tout ce que vous voulez, mais surtout, pas l'histoire d'une fille. Donc, j'espère, par cette espèce de blague, si j'ose dire, créer une espèce de rire, enfin toujours essayer d'avancer par le rire en chevauchant le tigre, la méthode féministe de chevaucher le tigre, c'est-à-dire d'employer les méthodes du rire et du masculinisme finalement pour faire avancer les trucs. C'est pas forcément la bonne, mais c'est pour l'instant la seule que j'ai trouvée. Voilà, c'était pour répondre directement à ce que vous avez dit.
I just do want to put a little spin on this, which is that children do like to see themselves in a book. And it's one reason why books that have, especially in America, that have people of color in it, because we live in a very diverse society, and so children want to be able to read about themselves. They want to see themselves in fiction. And I know when I was growing up, personally, I read a lot of books that had little boys in them, and I would go through systematically and put an S in front of every he. Because I wanted to see myself in that narrative, and so I put myself in that narrative. So there is, I think, not only, it's the nature-nurture thing again. There is the patriarchy, there is that bias, but there is also a personal bias in each child to want to see herself reflected in what they're reading. So it's a little bit more complicated than the patriarchy is bad. It's also human nature needs to be taken care of. So if we train our children to not just have their own selves reflected back, but also to have to find something new and to have boys trained that way as well as girls, which is clearly the way we're trained, I think that would be nice.
I also think it's a matter of whether men are supposed to find women interesting, really, when I think about it. We women grew up reading books about men and boys, and we liked it. And either we identified with the males in an exercise of imagination, or we put little S's in front of the he's, or whatever. And I think that what you were saying, Becky, it's even more that they're not actively encouraged to say, hey, girls have interesting stories, even if they're not your own story.
J'ajouterais une petite dernière chose. Je pense qu'il y a aussi une éducation éditoriale qui est à faire. Je vais parler dans une perspective du Québec. Est-ce que les éditeurs jeunesse pensent que le lectorat veut lire? Est-ce que le lectorat veut réellement lire? Et ça va donner lieu à des collections qui vont être justement juste pour petits garçons et juste pour petites filles. Et puis, c'est quand même assez dommage. Et ça va également, j'ai des amis auteurs qui me confient, je n'écris pas pour la jeunesse, seulement pour les adultes, mais qui vont me dire, au Québec, on est dans une espèce de paradigme du personnage battant et héroïque. Et si on présente un personnage qui est le moindrement rêveur, et puis alors non, là, ça ira pas, et c'est formaté, c'est formaté justement d'un point de vue, alors personnage battant, fonceur, et puis, mais ça c'est ce que les éditeurs pensent souvent.
Bonjour, c'est bien ce que je voulais rebondir sur cette histoire d'éditeur et de monde de l'édition SF. C'est une toute petite histoire qui aboutit sur une question. Je fais partie d'un petit collectif d'écriture où on écrit des nouvelles d'anticipation politique et de science-fiction sur une base féministe. Et dernièrement, on essaye de publier quelques nouvelles qui ne portent pas sur le féminisme, qui portent sur des questions liées au monde industriel, au capitalisme industriel, à la production, au rapport aux technologies, etc. Mais avec une base féministe, c'est-à-dire avec d'une part un langage qui est féminisé de diverses manières, on parlait des yel, il, celle, etc., qui met en scène des personnages, des femmes, des lesbiennes, des trans, des gens qui sont des vieilles, des mères, des enfants, enfin bref. Mais pour parler de capitalisme industriel, pas pour parler de féminisme, c'est juste un parti pris. Donc on a envoyé ces textes à plein d'éditeurs et on a eu notamment une réponse d'un éditeur qui est dans deux maisons d'édition un peu relativement importantes, qui nous fait des critiques, plus ou moins, qui nous parle plus ou moins sur la qualité de l'écriture et d'autres choses, et qui conclut en disant, qui ne parle absolument pas ni de questions anti-industrielles, capitalistes, technologiques, et qui nous dit, ah par contre, sur les questions de genre, on lit ça tout le temps, c'est complètement éculé, j'en ai vraiment ras-le-bol d'entendre des trucs comme ça, ce n'est pas intéressant. Et alors ma question, c'était, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a plus de textes que dans les années 70 qui sortent avec des partis pris sur les questions de genre? Est-ce que, moi je me suis dit, mais alors soit il est antiféministe, misogyne, je ne sais quoi, ça, il a peur parce qu'il a lu 3 textes et demi que ça l'envahisse, soit il lit énormément de manuscrits qu'il décide de ne pas publier, qui font qu'il a cette sensation d'être envahi par les questions de genre et l'univers de genre, parce que, en tout cas, moi, j'ai pas cette sensation que ça aurait gagné du terrain au point que ce soit éculé et qu'on puisse plus en entendre parler et que ça phagocyte tous les autres sujets de conversation.
I don't think it's old hat so much as the conversation has gotten impossible to ignore. I mean, I'm coming at it from, I'm obviously small. I can't speak to being part of feminist writing during the 60s and 70s. But I know that my generation, the generation that puts pronouns in their Twitter profiles and this sort of thing, it has become a very loud conversation and a very omnipresent conversation. It's happening across media. You know, it's not just science fiction and fantasy. It's not just comics. It's not just games. It's, you know, and you can go outside of nerd culture as well. It's everywhere. And so I don't think it's that we don't need to talk about it anymore. It's just we've started talking about it so much that you can't just shove it under the rug. You can't just ignore it. You can't say, oh, well, you know, that's for women to go talk about in their, you know, college classes or whatever. No, it's everywhere and it's important. So that's my impression of it.
J'ai un tout petit élément de réponse, c'est la traduction de Haraway, le manifeste cyborg. Seul le traducteur allemand a compris, lui seul, que c'était pas le cyborg, mais la cyborg. Et les traducteurs français, les éditeurs français, tout le monde y est allé avec le cyborg. Tout le monde est là à se dire, mais enfin, Robocop, c'est quoi cette histoire? La copine de Robocop, Anne, elle est pas digne d'être robocopisée, elle, alors que le mec, il est digne. Tout le monde s'est dit, mais c'est bizarre, comment ça fait que ce soit le cyborg? Alors, tout le monde a dit en France, oulala, c'est illisible. Ce texte, Manifeste cyborg de Donna Haraway, 1985, d'un seul coup on change le en là et tout est lisible. Donc c'est dire que, et tout le monde comprend et c'est lumineux et il n'y a plus de problème. Donc c'est dire à quel point, à mon avis, les résistances sont extrêmement fortes. Et dans le milieu éditorial, moi je suis étonné de voir que continuent à vivre des concepts comme la collection, quel intérêt, puisque maintenant tout le monde est sur internet et on cherche tel bouquin qui soit dans telle collection, tout le monde s'en fiche, chez tel éditeur, même chose. Donc je crois qu'il y a beaucoup de choses à voir du côté de l'édition. L'édition est un milieu, je crois, qui va avancer, mais il est temps, quoi. Il est temps, levons l'encre.
Je pense qu'il y a de plus en plus de textes de femmes qui sont publiés, mais pas forcément qu'il y a de plus en plus de textes féministes publiés.
I think that certainly in America, as there are more women who are editing science fiction and fantasy, and there are more young women who are coming into the world because the old ones are retiring or dying or whatever. I think that it makes a difference. But social change is painfully slow for those of us who really want it, and it's actually changing faster than almost any other time in history, and that is one reason that the backlash is so strong, I think.
C'est pour ça que le Québec est en avance, hein, parce que moi je constate les écrivains et écrivaines québécoises, c'est pas des écrivains au sens la France, je suis désolé d'imiter Louis de Funès, mais je veux dire, c'est pas l'écrivain, alors ils ont montré l'écrivain machin, l'écrivain truc, non, ils arrivent avec, ils arrivent avec leurs problématiques, leur histoire de biosphère, etc. Et ils disent oui, bah, par ailleurs j'écris ici et ça, mais il y a une espèce de force là dans la représentation de soi. En tant que non-écrivain, il y en a marre de la catégorie d'écrivain. Et si elle sautait, je crois que ça irait mieux pour tout le monde, y compris pour l'édition. C'est paradoxal.
Oui, et dans le milieu éditorial également au Québec, nous sommes très nombreuses. Moi-même, je suis directrice littéraire depuis plusieurs années, puis je suis quand même assez jeune. Et puis, il y a énormément de directrices de collections chez nous aussi. Alors, j'ai l'impression que le travail d'un point de vue éditorial, on a quand même des textes de cette nature-là depuis plusieurs années, mais on n'en aura jamais assez.
Nous n'avons malheureusement plus le temps. Ce sera donc le mot de la fin. Je vous remercie toutes et je vous remercie vous tous aussi de nous avoir écoutés.